Merci pour ces trois présentations. Donc on avance un petit peu dans notre réflexion. On comprend bien que la question de la définition, on marque quelques pas, hein, puisque la question évidemment du critère géographique, hein, du changement de déplacement d'air géographique est fondamentale. Mais pas seulement, certains ont insisté tout à l'heure sur la question de l'évolution du milieu qui est considéré, du vecteur que l'on a étudié. Cette question également du séquençage entre comprendre, avec tout ce qu'implique de comprendre, hein, c'est-à-dire à la fois comprendre les vecteurs, comprendre les zones potentiellement impactées, et cette question évidemment du temps de la compréhension, et du temps de l'action. Et on se rend bien compte que parfois il y a quelque chose d'un peu hermétique entre les deux qui peut poser question au gestionnaire, enfin, même qui peut être potentiellement assez problématique, et puis du temps de la réglementation qui est un temps peut-être encore plus long. Donc on se rend bien compte que ce séquençage dans la question de la gestion de l'espèce invasive est important. On aborde aussi dans l'état des connaissances, on voit une grande diversité finalement de cet état de connaissances en fonction des espèces auxquelles on s'intéresse. Hein. On voit bien que certaines espèces invasives, notamment du monde animal, sont très bien connues. On a l'impression que pour le frelon asiatique, même s'il y a encore quelques interrogations, on a déjà pas mal d'éléments pour comprendre, pour agir. Et pourtant, en 8 ans, on peut dire que c'est un temps relativement court. Et puis que pour d'autres espèces, les arbres, peut-être le milieu marin aussi pour son immensité, le milieu marin ancestral, comme dirait Gilles Boeuf, l'océan ancestral, que c'est un petit peu plus compliqué. Donc on va poursuivre avec un échange avec les différents intervenants de ce matin et avec vous. Donc n'hésitez pas à poser vos questions de compréhension, vos réflexions, puis on enchaînera avec les deux dernières présentations. Sans empiéter trop sur la question de la gestion, hein, puisque c'est la table ronde 2, on va essayer de garder vraiment nos questionnements sur l'état des connaissances.
Bien, alors je suis là pour faire circuler le micro. Alors s'il n'y a pas de questions, bon, moi j'en ai, mais je peux interpeller des personnes dans la salle dont je sais qu'ils ont des choses à dire.
À l'interpellation, voilà encore un registre sémantique policier.
Et ils ont été avertis.
Bon, très bien.
On les prend pas par défaut.
Envahissant.
Alors moi j'avais peut-être une question pour le temps que la suivante arrive sur le caractère un peu Annabelle Porté a dit que chaque espèce finalement avait son processus particulier et appelait donc à un travail un peu spécifique et Laurent Guérin lui dans son schéma il montre qu'il y a une conception un peu plus générique. Donc est-ce que c'est la différence de milieu qui veut ça ou donc comment vous réagissez peut-être les uns et les autres à cette spécificité ou à cette généricité de l'analyse des processus. Et après, je donnerai la parole à Guy Bachelet qui réagira.
Oui, je vous en prie. En fait, je pense qu'il n'y a pas de... Ça marche ? Il n'y a pas du tout d'opposition parce que ce qu'il a expliqué, c'est finalement l'introduction par les voies de bateau. C'est un peu ce que j'avais mis sur ma diapo en trois cercles. Il faut l'introduction, ce qu'on appelle la pression de graines, la pression de propagule, les caractéristiques de l'espèce qui font qu'elle va être invasive ou pas, et le milieu dans lequel elle va être invasive. Et c'est la conjonction des trois. Et ça, c'est systématique et c'est pour toutes les espèces. Et c'est un peu ce qu'il a présenté. Après, c'est que ce qui fait les caractères, par exemple les traits d'une espèce invasive, il peut y en avoir plusieurs, et en fait... c'est pas les mêmes mécanismes et c'est pas les mêmes caractères d'une espèce à une autre qui vont expliquer que c'est une espèce invasive. Certaines vont avoir, si je prends les plantes, des taux de photosynthèse supérieurs aux autres, d'autres pas du tout. Ce sera pas le caractère. L'évolution des populations, ça arrive chez certaines espèces, comme j'ai montré sur l'érable Negundo. On a fait la même chose sur l'érable plane qui est invasif au Canada et aux États-Unis. Il n'y a pas du tout d'évolution des populations. Donc la difficulté, c'est de trouver un pattern, un mécanisme généralisable. Et à l'heure actuelle, il n'y en a pas.
Denis ouais, Thierry.
On peut quand même... excuse-moi d'apporter quelques bémols quand même. Il y a des grands traits quand même. Certes, on a parlé de trois exemples ce matin. Donc un du monde, une invasion du monde végétal et deux du monde animal. Ce n'est pas tout à fait quand même le même monde. Il y a quand même des grands traits, hein, les capacités de dispersion. ce qu'on appelle la plasticité. Évidemment, toutes les espèces sont différentes les unes des autres, mais il y a quand même des espèces qui sont connues depuis longtemps, ou des familles qui sont connues depuis longtemps pour des grosses caractéristiques envahissantes. Capacité, par exemple, à s'installer assez vite, à se reproduire très vite dans des milieux assez pauvres, ou des milieux... les capacités de compétition aussi. Beaucoup d'envahisseurs sont des gros compétiteurs. Alors, par exemple, c'est le cas, je ne vais pas ramener ça forcément au frelon, mais c'est le cas. C'est une bestiole qui est très compétitrice dans ces nouveaux environnements et qui a énormément de plasticité. C'est-à-dire, elle s'adapte à des variations climatiques, elle s'adapte à des variations de ressources, des choses comme ça, et ça en fait un très bon envahisseur. Par exemple, au vignoble, on a une grosse invasion biologique aussi, insectes en ce moment, c'est une nouvelle drosophile qui est rentrée en Europe. Et c'est pareil, c'est des bestioles qui ont des capacités d'explosion démographique assez importantes. Donc ça, je pense que c'est quand même des grands traits des envahisseurs.
Sur les arbres, je ne serais pas d'accord pour la plasticité. On a des espèces qui sont très plastiques et d'autres qui ne sont pas du tout plastiques. Ouais. Elles sont supérieures tout le temps, mais elles ne sont pas plus plastiques. Donc la notion de propagation, certes, c'est ce que je disais un peu sur la pression de propagule, si elles ne se reproduisent pas fortement, elles ne peuvent pas proliférer fortement. Après, elles ont des taux de croissance qui sont forts, je suis d'accord, à chaque fois on a ces deux caractères systématiques. Après, quand on regarde sur les méta-analyses dans les arbres, la plasticité, ce n'est pas toujours un caractère.
Vous voulez ajouter quelque chose sur le milieu marin, peut-être qu'il viendra tempérer ou au contraire
Oui, mais c'est vraiment du cas par cas, hein, pour faire une analogie pas forcément heureuse, mais avec les maladies. Il y a des grandes choses communes en termes de propagation, etc. Mais c'est vraiment du cas par cas, espèce par espèce. Quand on parle d'une espèce de plancton qui va faire une prolifération à un temps donné, et c'est vraiment lié aux conditions du milieu, et qui va ensuite s'enquister, qu'on ne verra plus jusqu'à la prochaine marée. C'est des phénomènes de prolifération complètement différents de ce qui peut se passer avec des crabes, par exemple, ou d'autres espèces fixes, comme les acidies. C'est vraiment du cas par cas. Il y a des grandes phases qu'on a montrées, hein, d'installation, d'explosion et de prolifération qui sont communes, et c'est vraiment du cas par cas, espèce par espèce. Et ça se gère donc au cas par cas.
D'accord. Monsieur.
Oui, bon, moi, je connais mieux le milieu marin. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà, mais...
Est-ce que vous pouvez simplement vous présenter, s'il vous plaît, pour les gens qui ne vous connaissent pas?
Guy Bachelet, UMR Époque, et je travaille avec Laurent Guérin, effectivement, sur les introductions d'espèces en milieu marin.
Merci.
Oui, c'est vrai que le schéma qu'a présenté Annabelle Porté tout à l'heure était intéressant sur les différentes phases d'une invasion, parce qu'on se rend compte que finalement, quand on détecte ces fameuses espèces introduites et voire invasives, il est déjà trop tard la plupart du temps. Donc l'éradication, ça marche quelquefois, mais enfin dans la plupart des cas,
aucune éradication.
C'est illusoire.
Donc c'est vraiment, il faut s'attaquer à la base du processus, hein, la phase d'établissement. Moi, je ne savais pas que chez les arbres, ça pouvait durer plusieurs siècles, c'est assez étonnant. Bon, nous, dans le milieu marin, on dit que la phase d'établissement où une espèce reste cryptique, bon, c'est de l'ordre de quelques mois, voire quelques années. Arrive à la détecter, et je pense que c'est et on ne peut la détecter qu'à partir du moment où elle prolifère. Donc si on veut vraiment lutter contre les invasions biologiques, et encore faudra-t-il se poser la question, est-ce qu'on veut vraiment lutter contre, c'est plutôt par des mesures préventives, hein, qu'il faut passer, et on aura peut-être l'occasion de revenir sur ce sujet. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi, ouais, sur les caractères, les caractéristiques d'une espèce qui font qu'une espèce devient invasive. Là,
rapprochez un peu le micro, s'il vous plaît.
Pardon. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Bon, les écologistes, depuis longtemps, ont fait des listes, hein, de caractères qui favoriseraient l'invasibilité. Si
ça les écologistes ou les écologues?
Pardon, les écologues.
Merci.
Des formations. Et c'est vrai que ben on se rend compte que ça marche quand même assez rarement. Enfin, il y a des espèces, oui, effectivement, on comprend pourquoi elles se sont bien adaptées à leur nouveau milieu, pourquoi elles deviennent invasives, mais dans beaucoup de cas, on ne sait pas.
D'autres questions? Cécilia Claes, vous voulez... Bien sûr.
Merci beaucoup pour ces interventions. Dans l'intervention de Denis Thierry, c'était tout à fait intéressant de voir cette étude de cas où les proies se rebellent, finalement. Hein. Et ça me fait penser au dossier méditerranéen marin, Colerpa taxifolia, qui avait été particulièrement médiatisé. Vous vous souvenez de l'algue tueuse, et où finalement, récemment, les collègues océanographes m'ont dit non, mais l'herbier de Posidonie a réussi à développer des stratégies de défense, voire de réattaque. Donc c'est un processus qui nous montre comment finalement la nature sait se battre et s'est battue avant nous, et que se pose toujours la question de ce temps, et qu'il est difficile pour l'être humain de juger s'il faut la laisser faire la nature ou s'il faut un petit peu lui donner un petit coup de pouce. J'ai beaucoup aimé aussi dans l'intervention de Laurent Guérin une formule qui est vraie pour toutes les disciplines scientifiques. Plus on observe, plus on trouve. Et c'est particulièrement vrai pour le milieu marin, mais c'est vrai pour tout. Et en effet, à quel moment on peut parler vraiment d'invasion nouvelle, ou à quel moment peut-on considérer que ce n'est finalement qu'un effet de mise en lumière par un chercheur qui va se poser cette question-là. Et là, ça sera mon dernier point. Mais bon, Denis, tu m'as invité à tes risques et périls. Hein. Ça me fait penser à quelque chose qui vient de la sociologie des sciences. On fait tout ça, c'est-à-dire qu'il y a une chose qui est rare, par contre, c'est le financement de la recherche. Vous le savez tous, on se bat tous au quotidien hein, pour être financés. Et que, alors, Jean-Louis Fabiani, un sociologue, l'avait montré très tôt, mais ça s'est exacerbé depuis. On est parfois obligé de développer des stratégies de dramatisation pour obtenir de la part de la puissance publique ou privée
l'heuristique de la peur
des financements. Hein. Et je sais, pour avoir discuté en off avec des chercheurs de sciences humaines, des sciences de la vie, ils me disent « Non, mais moi, je travaille sur cette espèce, ça fait longtemps que je travaille sur ça. » Et puis bon, quand j'ai vu passer l'appel d'offres invasion biologique du ministère de l'écologie, comme il y en avait beaucoup, allez, j'ai tiré la sonnette d'alarme en disant que c'était de l'invabio. Et on fait tout ça, hein, je vous rassure, en sociologie, on travaillait sur des questions, puis tout d'un coup, on a dit « Non, Denis, c'est pas vrai. » Ou on est dans ces logiques de dramatisation pour obtenir un peu plus de financement. Donc c'est peut-être aussi là mon propos, un appel à la puissance publique de dire mais laissez-nous aussi travailler sur des objets qui sont peut-être pas a priori problématiques, mais que la connaissance pour avancer doit tout connaître, même les choses qui peuvent paraître secondaires, anecdotiques et qui n'annoncent pas forcément un drame dit demain. Voilà.
Alors est-ce que justement les arbres qui ont l'air d'être peu étudiés, malheureusement c'est le résultat d'un manque de budget pour...
Pas seulement, oui, je ne vais pas le nier, hein, j'ai les mêmes problèmes que tout le monde, j'arrive pas à trouver les financements. Après, je pense que c'est réellement la notion de temps qu'il y a eu avant l'invasion, entre l'introduction et l'invasion. Ça a été un processus très long. Et je pense que l'intégration dans le système qui le perturbe sera peut-être aussi long. Donc l'arrivée du coup devient, quand elle est massive, devient un énorme problème de gestion, mais c'est pas pour autant que pour l'instant on arrive forcément à trouver des financements sur invasion biologique. Après moi par exemple j'en ai d'autres qui viennent pas du côté du tout invasion biologique, donc je pense que c'est pas que ça, mais le temps long. On voit de suite une invasion d'une plante herbacée qui a des temps de génération plus rapides, comme l'ambroisie par exemple, ou un insecte qui se reproduit.
Oui, ça vient du métabolisme même de l'objet étudié finalement.
Mais on a maximum une vingtaine de générations depuis qu'il a été introduit. C'est peu comparé à un insecte qui en fait une par an. C'est 20 ans s'il a été introduit il y a quelques siècles.
Bien, merci beaucoup à nos trois intervenants. Je vous propose maintenant d'écouter Vincent Bertrand.